Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et pour ce début d'émission, je souhaitais déjà pour commencer rendre hommage à un acteur qui nous a quitté lundi dernier. On n'a pas eu le temps évidemment de réagir parce qu'on l'a appris à la fin de l'émission. Pierre Denis que vous avez adoré dans la série Une femme d'honneur, qui jouait le père de Léo dans la série Scène de ménage, ou encore évidemment qui a marqué les esprits avec les séries 5 sœurs sur France 2, Plus belle la vie, et puis dernièrement Demain nous appartient avec le personnage de Renaud. Il est vrai que le personnage de Renaud nous a beaucoup marqué et a connu une fin tragique en plus et a laissé des fans complètement éplorés. Mais là, eh bien, la réalité malheureusement a rejoint la fiction. Pierre Denis, le comédien, nous a quitté lundi dernier de la maladie de Charcot, une maladie fulgurante, et on pense énormément à lui. On a eu la chance de le côtoyer, beaucoup en festival. Il venait dans notre émission tous les ans quasiment et on voulait vraiment lui rendre hommage pour sa gentillesse, sa générosité. Il va beaucoup nous manquer. Il avait un charisme de dingue, une prestance de fou et une simplicité à la fois digne des plus grands acteurs. Et ça, c'était absolument merveilleux. On avait eu l'occasion de le recevoir à l'occasion d'une intrigue qui allait beaucoup faire parler dans l'été avec le personnage que jouait son fils, Axel Kenner, dans la série Demain nous appartient. Et donc, Pierre Denis nous en livrait déjà quelques petits scoops juste avant. Je vous propose de le réécouter. Pierre Denis est notre invité, un habitué. Tu viens une fois par an nous voir pour nous parler justement de Renaud et de tes projets. Bonjour Pierre.
Bonjour, je suis ravi d'être là, comme chaque année. C'est très agréable de se retrouver entre amis comme ça, c'est bien.
Exactement. Et alors Pierre, ce qui va être encore plus agréable, c'est qu'on va te voir cet été. On va te voir, enfin, on va voir Renaud un petit peu plus.
Oui, c'est-à-dire que mon fils, le docteur Chardot, joué par Axel Kiner, va quitter la série pour 6 mois, s'il avait besoin de faire un break. Donc... pour expliquer son départ, ils ont construit une arche autour de son départ dans laquelle je vais être impliqué, et on va voir le docteur Chardot et le docteur Dumas, oui, père et fils. On va les voir pas mal pendant tout l'été.
Voilà, on pense évidemment beaucoup à lui, à tous les acteurs qui l'ont côtoyé, et puis évidemment aussi à toute sa famille, ses proches. Merci Pierre pour tout ce que tu nous as apporté à la télévision, et merci d'être venu aussi souvent dans notre émission Chut, on écoute la télé. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, on va aller plus évidemment vers quelque chose de joyeux quand même. On va parler de Mbappé, la diplomatie du ballon rond, qui sera diffusée demain soir sur France 5. Le réalisateur Jean-Philippe Leclerc va nous en parler. Et puis une émission qui a fait son arrivée sur LCP, ça s'appelle VIP, Very Important Paysan. C'est Frédéric Courtadon qui est aux manettes de l'émission et chaque semaine qui vient nous mettre des aliments à l'honneur et surtout parler du monde paysan. Et ça, c'est important, bien évidemment. Vous l'avez connu aussi dans Demain nous appartient, dans Plus belle la vie. Elle est maintenant à l'affiche de la série L'or bleu. C'est Elfie Kluck qui va venir nous parler évidemment de sa carrière, de tout ce qui se passe pour elle. Il y a plein de belles choses, un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis en fin d'émission, c'est la prof de la Starac qui sera notre invitée, Sophia Morgavi, qui viendra nous parler évidemment de la sortie de son livre aux éditions de l'Observatoire. Un très très beau rendez-vous en perspective qui nous attend en fin d'émission. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec nos coups de cœur télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à l'émission VIP Very Important Paysan qui est diffusée chaque dimanche à 18h30 sur LCP. C'est aujourd'hui également lundi à 14h30 en rediffusion et le samedi à 11h30. Son animatrice Frédérique Courtadon, qu'on a grand plaisir à retrouver, est avec nous en ligne. Bonjour Fred.
Bonjour Alain et bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'être avec nous pour une émission importante. On le disait, puisque si elle s'appelle aussi Very Important Paysan, c'est que le sujet est très important. On en parle beaucoup aujourd'hui. Comment mieux se nourrir, c'est une des préoccupations premières des Français. Et chaque semaine, on aborde effectivement un aliment particulier. Alors celui que vous allez pouvoir voir aujourd'hui à 14h30 ou samedi, ou déjà en replay sur LCP, est consacré à la carotte et aux lentilles. Mais moi j'aimerais déjà... Frédéric, qu'on explique un petit peu ce que c'est que Very Important Paysan pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission.
Mais bien sûr Alain. Alors VIP, comme vous le disiez, c'est une émission que moi je trouve importante et essentielle puisqu'elle accueille les agriculteurs et les agricultrices qui, comme vous le disiez, nous nourrissent. Et l'idée, c'est bien sûr de leur donner la parole, de les recevoir, de découvrir leur univers, leur métier, leur réussite, leurs doutes, leur vision, bien évidemment. Et à travers ça aussi, de faire découvrir des bons produits de chez nous. Vous citez la carotte, les lentilles, évidemment. Nous recevons également des politiques puisque nous tournons dans le studio de l'Assemblée nationale. Et que donc il nous est quand même assez facile de recevoir des élus et des députés qui viennent eux aussi partager leur vision du monde agricole. Le tout bien sûr avec une bande de chroniqueurs et spécialistes de l'agriculture, notamment Louise Espard qui nous vient des Landes, ou encore Olivier Mével, spécialiste de la consommation, et Jean-Baptiste Vervy, agriculteur, et enfin Antoine Robin, spécialiste de l'actualité du monde agricole. L'idée principale, c'est de reconnecter les consommateurs avec les agriculteurs, de faire fi des idées reçues et d'expliquer comment nos agriculteurs et agricultrices travaillent pour nous nourrir et avec passion.
Et une émission qui allie sérieux et bonne humeur, et ça fait plaisir aussi. Alors justement, on va avoir la réponse à la question que tout le monde se pose depuis des années. Est-ce que la carotte rend aimable ? Et oui, quand même.
Et on a essayé de répondre à cette question sur ce plateau. Alors, apparemment, la carotte rend aimable et fait les cuisses roses aussi, comme disait ma maman.
C'est ça.
Oui, c'est vrai. Et puis... C'est vrai que c'est un légume qu'on consomme toute l'année, qu'on aime beaucoup. C'est un légume qui se prête à toutes sortes de recettes. Et nous avons des belles carottes, notamment dans les Landes. Et nous recevons un spécialiste de la carotte, Patrick Larère, qui va nous expliquer comment il les cultive. Et tout le parcours surtout, parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est ça. C'est cette carotte, comment elle pousse, comment elle est acheminée jusqu'au consommateur.
Mais oui, comment il est possible d'en avoir toute l'année aussi?
Absolument, il y en a toute l'année parce qu'il y a plusieurs variétés, plusieurs cultures et que après bien sûr elles sont conservées pour notre plus grand plaisir et notre plaisir il est avant tout français parce qu'on veut manger français, c'est très important.
Alors on disait à chaque émission, on a deux producteurs effectivement qui sont un peu spécialistes des aliments qui sont présentés dans chaque numéro et après on a un élu effectivement alors de tous bords politiques, là c'est Hélène Laporte, députée du Rassemblement National du Lot-et-Garonne qui est un territoire justement rural aussi. Donc elle connaît très bien son territoire. Voilà, on a vraiment tous les bords politiques qui viennent justement vous rendre visite. C'est l'avantage d'être au cœur de l'Assemblée nationale. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, à 18h30, on va s'intéresser à un autre fruit qu'on adore. Moi, c'est mon préféré, je dois l'avouer, c'est la fraise.
Eh oui, c'est la fraise, la belle petite fraise française, une fois de plus, j'insiste, cette fraise qui nous annonce le printemps, les beaux jours. Donc là aussi, on a reçu une cultivatrice de fraises extraordinaire, parce que on accueille beaucoup la jeune génération aussi, pour montrer que c'est possible, pour montrer que les mentalités changent, et que ces produits-là, il faut les soutenir. Alors là, pour le coup, on disait que la carotte, elle est présente toute l'année. Là, Alain, c'est différent, puisque la fraise, c'est vraiment la saisonnalité. C'est un produit qui est fragile, dont la saison est très courte. C'est pour ça qu'il faut en profiter, se régaler. Donc oui, on va tout vous dire sur la fraise. On va vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de fraises qui viennent d'Espagne, du Maroc, pourquoi il faut privilégier les fraises françaises, toutes les variétés. Et bien sûr, on donne toujours des petites recettes aussi fort sympathiques à la fin de cette émission.
Ben oui, et oui. Et puis c'est vrai que alors, la fraise française, enfin, il y a juste à comparer l'odeur. Hein. Et la fraise française, elle sent tellement bon, elle dégage une odeur sur les étalages qui est absolument incomparable, évidemment. Et puis il faut profiter parce que ce mois de juin est le dernier mois quasiment hein, pour pouvoir manger de la bonne fraise française. Donc profitez-en évidemment. Et puis ça sera le poulet aussi qui sera l'honneur. Hein.
Oui, le poulet, alors c'est la viande préférée des Français. C'est vrai que les Français ont changé un peu leurs habitudes de consommation. Rappelez-vous, il y a des dizaines d'années, on mangeait beaucoup de viande rouge et puis on a expliqué que la viande rouge n'est pas forcément bonne pour la santé si on en mangeait trop. Alors le poulet, c'est une volaille que les Français adorent. Et là aussi, on va expliquer les différences entre un poulet qu'on va acheter en supermarché et puis le poulet un peu plus haut de gamme, qu'on trouve aussi en supermarché d'ailleurs. On va donner des petites astuces aux consommateurs pour justement décrypter les étiquettes, savoir que parfois il y a des poulets qui voyagent plus que vous et moi, Alain. Il y a des poulets qui viennent du Brésil avec les accords de libre-échange du Mercosur. Donc on est là aussi pour dire aux consommateurs, attention, regardez bien ce que vous achetez, c'est important parce que vous êtes des consomme-acteurs. Vous avez un rôle, vous avez une responsabilité, on l'a tous et c'est comme ça qu'on va pouvoir soutenir cette agriculture française qui est tellement précieuse.
Alors en plus de la carotte, là dans le numéro qu'on voit aujourd'hui et qu'on va revoir samedi qui est déjà en replay sur LCP, on parle lentilles. Alors ça, c'est souvent une légumineuse pas très aimée, surtout des plus jeunes, des enfants notamment. Et on va apprendre que, par exemple, la lentille est de plus en plus consommée et surtout, elle est bonne pour la planète.
Exactement, la lentille a tout bon. Là aussi, les consommateurs ont changé leur mode de consommation. La lentille est très riche en protéines végétales, donc pour les gens qui ne mangent pas de viande, c'est une alternative parfaite. C'est aussi une légumineuse, comme vous le disiez, qui peut se décliner dans plusieurs variétés. Il y a les lentilles corail, les lentilles vertes, les lentilles beluga, les fameuses lentilles noires, les lentilles blanches. Et cette lentille, effectivement, elle est très chargée en azote. Donc, elle va permettre aux agriculteurs d'utiliser beaucoup moins d'engrais. Elle va aussi assainir les sols. Et puis, elle est très bonne pour nous, les humains. Donc, vive la lentille!
Exactement. Alors, vous voulez tout savoir hein, sur la production française et les agriculteurs français, comment mieux se nourrir. Vous allez en apprendre plein, effectivement. Very Important Paysan, c'est chaque dimanche à 18h30. C'est en rediffusion le lundi à 14h30 et également le samedi à 11h30. Numéro consacré aux carottes et aux lentilles que vous allez pouvoir voir aujourd'hui et samedi et dimanche prochain. Rendez-vous avec la fraise et le poulet, le tout en partenariat avec le collectif Nouveau Champ. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, il semblerait, Frédéric, hein, mon petit doigt m'a dit, que il y avait aussi du théâtre pour vous.
Oui.
N'est-ce pas?
Et oui, mais vous savez tout, Alain.
Mais oui.
Oui.
Mais je regarde alors... Very Important Paysan, moi.
Oui, c'est vrai que on a fait ma publicité. Alors oui, je suis une passionnée de théâtre depuis toute petite. Alors tout cela reste amateur, mais là aussi c'est important. Moi, j'encourage les gens à aller faire du théâtre, à aller chanter. C'est merveilleux, ce sont des belles expériences. Donc oui, je fais du théâtre. Ça va se passer mi-juin du côté de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, et nous allons jouer une pièce assez formidable qui fait écho à ce qui se passe en ce moment, puisque c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui raconte une société dictatoriale où on ne lit plus et où les écrans de télé sont partout. C'est étonnant, hein, ce livre a été écrit il y a peut-être 50 ans, mais c'est toujours d'actualité.
Ah oui, et il va l'être de plus en plus. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Very Important Paysan, déjà en ligne sur scp.fr aujourd'hui à 14h30, samedi à 11h30 et tous les dimanches à 18h30 avec un inédit tous les 15 jours. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Merci Alain. Au revoir.
Au revoir.
Retrouvez-nous dans VIP, Very Important Paysan, l'émission qui met en valeur le monde agricole. Au menu cette semaine, un légume que les Français adorent, disponible toute l'année et qui paraît-il rend aimable. Vous aurez tout sur la carotte. Nous recevrons Hélène Laporte, députée Rassemblement National du Lot-et-Garonne. Et enfin, nous parlerons lentilles, une légumineuse de plus en plus consommée et très bonne pour la planète.
Very Important Paysan, présenté par Frédéric Courtadon, en partenariat avec le collectif Nouveau Champ, sur LCP Canal 8, LCP.fr, la plateforme France Télévisions et notre chaîne YouTube.
Allez, ne bougez pas, dans quelques instants, l'adorable Constance Gay nous rejoint pour nous parler de l'été 36 qui termine ce soir sur TF1. Jean-Philippe Leclerc également sera notre invité pour Mbappé, la diplomatie du ballon rond. Et Elfie Cluck nous rejoint évidemment aussi à l'affiche de la série L'Or Bleu sur France Télévisions. Sophia Morgavi en fin d'émission. On va pas s'ennuyer, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Toi, tu t'es mis dans de beaux draps. Mes quatre murs autour de toi, sans fenêtre et sans toi. Et moi, je te vois nager dans le noir. Là, te noyer dans la baignoire. Y'a quoi dans ton histoire? Je peux pas savoir. Dis-moi pourquoi. La peine, c'est chacun chez soi. Les mêmes larmes, les mêmes armes, pas le même combat. Dis-moi pourquoi c'est tombé sur toi cette fois. Ce vide immense, c'est dans ta chambre et j'en fais quoi? Dis pourquoi je peux rien faire pour toi.
La télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, vous allez pouvoir suivre le grand final cette semaine sur TF1 de l'été 36 avec les deux derniers épisodes. On vous le disait, les comédiennes viennent nous parler et viennent nous voir toutes les semaines sur antenne depuis le début. On va terminer avec Constance Gay qui joue Léonie Morel. Bonjour Constance.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a découvert effectivement beaucoup de choses sur le personnage de Léonie qui était la plus solaire peut-être de toutes depuis le début de cette série. Et on a vu à la fin de l'épisode 4, ça se termine de façon assez dramatique pour elle, ou du moins pour son amoureux, mais on va dire que c'est un personnage qui a démarré en lumière et qui va tout doucement vers l'ombre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le personnage le plus solaire des quatre filles, quand on commence la série. Et là, je vous spoil pas la suite, mais il se trouve qu'à la fin de l'épisode 4, il se passe un drame et que ça va l'endurcir assez fortement et elle va s'assombrir. C'est-à-dire là où elle était très ouverte, elle va se refermer, comparée à d'autres personnages qui étaient beaucoup plus fermés et qui s'ouvrent.
C'est vrai que Léonie, je dirais que sur les quatre, c'est peut-être c'était la plus foisonnante, c'était la plus libre, la plus moderne aussi, qui avait pas peur de s'afficher avec un homme noir par exemple, dont elle était follement amoureuse. C'est peut-être la plus libre des quatre.
Ouais, elle est complètement franchie du regard des autres. Elle n'en a absolument rien à faire qu'on puisse penser d'elle que c'est une femme, qu'elle a une grande gueule, que machin, que truc. Elle assume complètement ce qu'elle est. Elle tombe amoureuse d'un garçon qui est noir. Je crois qu'elle s'est même pas rendu compte qu'il était noir parce qu'elle est tombée amoureuse de cette personne. Elle n'en a absolument rien à faire de ce que peuvent penser les gens et c'est en ça qu'elle est très moderne. C'est-à-dire que tout ce dont on nous parle et tout ce dont on parle aux jeunes filles aujourd'hui, du essayer de t'affranchir du regard des autres, tout ça qui est très très nécessaire comme discours, bah elle est là 100 ans d'avance quoi, c'est, elle l'a déjà fait quoi ce travail, là où moi Constance Guest, je sais pas si je l'ai vraiment encore fait quoi.
C'est vrai que dans ce rôle, Constance Léonie, depuis le début, est aussi très perspicace dans cette enquête, dans cette espèce de cluedo que l'on suit depuis l'assassinat de Jacquard dans les deux premiers épisodes. Et c'est vrai qu'elle a toujours, un petit temps d'avance sur François-Xavier de Maison.
Oui, parce qu'en fait, elle arrive avec son œil complètement neuf. Le personnage du commissaire Raven, qui est interprété par François-Xavier de Maison, lui, il est dans la maison depuis 20 ans, donc il sait comment on analyse une scène de crime, comment on arrête des suspects, comment on les interroge. Elle connaît rien. Donc en fait, elle arrive et elle fait tout à l'instinct. Elle fait, moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est son instinct et parce qu'elle a lu aussi énormément de polars. Elle est fan d'Agatha Christie. Dans l'épisode 3 et 4, on voit dans sa chambre que il y a plein de bouquins sur les meurtres, la criminologie, tout ça. Donc, elle a une connaissance, mais elle a un instinct de première vision en fait sur les crimes. Donc, oui, elle dépasse un peu son commissaire. Ouais.
Alors toi, dans Flashback qui repartait dans les années 90, pour le coup là, t'es parachuté en 1930 en costume, faire partie d'une aventure pareille, c'est hyper jouissif pour une comédienne.
C'est un bonheur en fait. C'est vraiment. Je pense que quand on est enfant et qu'on veut faire ce métier, on a envie de faire cette série là, quoi. On a envie de voyager dans le temps. On a envie d'être. Franchement, en fait, tous les matins, c'était. La feuille de service était un cadeau. C'était la feuille de service. Je rappelle aux auditeurs que c'est notre plan de travail pour la journée. On sait quelle séquence on va tourner, avec qui, comment, quoi, à quelle heure, dans quel décor. Et tous les matins, c'était le Kinder Surprise. C'est avec qui je vais jouer, dans quel décor, dans quel costume. Moi, j'arrivais dans la salle des costumes et je faisais yes, c'est cette robe-là. Yes, c'est ce décor. Oh génial, mon copain il est là aujourd'hui. Enfin, c'est des cadeaux tous les jours quoi. C'est jouer dans une série de cette envergure là, c'est vraiment un cadeau de la vie.
Alors, il est vrai que si Léonie est venue à Nice, c'était pour une raison bien précise. Oui. Quand même au départ aussi, c'était pour innocenter son père.
Oui, surtout même pour innocenter son père, elle est persuadée qu'il est innocent dans un meurtre dont il a été accusé.
On rappelle qu'elle est la demi-sœur de Julia aussi.
Tout à fait. C'est le père de Léonie et de Julia, interprété par Nolwenn Leroy. Et qui dit erreur judiciaire dit il va être exécuté par guillotine, puisqu'en 36 la peine de mort existait encore. À tort. Donc elle va tout faire pour faire éclater la vérité, pour sauver son père.
Bon, ces deux derniers épisodes s'annoncent apocalyptiques.
Disons que ces femmes vont vraiment se battre jusqu'au bout pour faire avancer les choses, quoi.
L'été 36, le grand final, c'est donc cette semaine sur TF1. On ne le rate pas. Merci Constance d'avoir été avec nous. On te retrouve très bientôt, en tout cas j'espère, pour de nouvelles aventures. Il y aura un unitaire pour Face à Face, il y aura une saison 3 pour Flashback, on n'en doute pas. Et plein de surprises qui nous attendent. Merci, à bientôt.
Merci à vous.
C'est nos premières vacances. Je veux qu'on en profite.
Bienvenue au Riviera.
Oh Julia, quel plaisir de vous revoir.
Bonjour Madame Ackerman.
Adrien Jacquard, 45 ans, tué entre minuit et 1h du matin. Personne ne quitte l'hôtel sans mon accord.
Adrien, tu t'en fichais. Tu l'as pris, tu l'as jeté, tu t'es comporté comme une garce.
Un meurtre, c'est d'abord un mobile.
Faut que je récupère le dossier de l'affaire au commissariat. Comme ça, j'aurai de quoi mener ma propre enquête.
Mais quelle enquête?
T'approches plus jamais de ma famille.
Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir.
L'été 36, prochainement sur TF1.
Allez, à quelques jours du Mondial, notre coup de cœur télé va s'intéresser au documentaire Mbappé et la diplomatie du ballon rond, réalisé par Jean-Philippe Leclerc, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
C'est demain soir sur France 5 à 21h05 et sur France.tv qu'on va pouvoir découvrir ce documentaire et surtout la trajectoire et le portrait d'Mbappé, un représentant de la France, mais pas que. Vous allez voir, il y a toute une affaire d'État quasiment derrière dans ce documentaire très bien fait qui nous éclaire effectivement sur tous les enjeux autour du joueur.
Oui, c'est ça. Et on s'est intéressé bien sûr à l'aspect footballistique, mais c'est pas un documentaire pour savoir s'il va avoir enfin ou pas le Ballon d'Or. On est plutôt parti d'un constat qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé est le Français le plus célèbre au monde grâce à la force du football, grâce à la force de ses réseaux sociaux. Il a 130 millions d'abonnés uniquement sur Instagram. Partout où vous allez dans le monde, quand vous dites que vous êtes Français, on vous dit, on vous répond d'abord Kylian Mbappé. Donc on a voulu savoir un peu ce qu'il faisait lui de cette notoriété, comment il l'utilisait et comment d'autres l'utilisaient aussi, puisque on a effectivement un long chapitre sur ces relations entre le président Macron et Kylian Mbappé, et notamment cette scène célèbre de la dernière finale de la Coupe du Monde après la finale, quand Emmanuel Macron a passé plus de 30 secondes à côté de Kylian Mbappé pour tenter de le consoler, alors que visiblement Kylian Mbappé avait pas envie d'être consolé à ce moment-là.
Oui, c'est ça qui est dingue. On s'aperçoit quand même que ce joueur à 19 ans, champion du monde, c'est très tôt dans sa vie, va se mettre à naviguer entre les puissants, et pas que la France, mais comme vous le disiez, dans le monde entier, il y a des couvertures de journaux à l'étranger qui y ont consacré des unes absolument dingues. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il est devenu très très vite une icône pour la France, et que lui, de toute façon, c'était aussi sa volonté de représenter la France dès le début.
Alors ça, c'est effectivement un changement fondamental par rapport à d'autres grands footballeurs français du passé, notamment Michel Platini ou Zinedine Zidane, qui s'était toujours un peu méfié de tout l'aspect, je dirais, non football,
ouais, politique.
Relations politiques, etc. Alors que Kylian Mbappé, c'est assez bluffant. C'est-à-dire que très jeune, lui, il dit, voilà, je veux représenter la France, je veux incarner la France. Il dit ça dès ses 19 ans. Donc c'est quand même assez bluffant. Et effectivement, il va tenir parole. Alors, son histoire, c'est aussi la force des réseaux sociaux. C'est aussi une des grandes différences avec Zidane et Platini. C'est cette force absolument incroyable des réseaux sociaux qu'on retrouve tout au long de sa carrière, et ça lui donne une puissance incroyable que n'avait pas forcément Zidane ou Platini, et ça lui donne aussi une pression incroyable, et effectivement les relations avec Emmanuel Macron, mais aussi avec le Qatar dans le cadre du Paris Saint-Germain, où le Qatar s'est servi en fait du soft power de Kylian Mbappé, et puis ensuite ça s'est plutôt même très très mal terminé, et donc à la fois Kylian Mbappé a été au service du Qatar et ensuite on a été pratiquement un de ses pires ennemis.
À quel moment vous avez fait partie du projet? Qu'est-ce qui vous a en tout cas décidé et qui vous a donné envie de réaliser ce documentaire, Jean-Philippe?
Moi je m'étais beaucoup consacré à Michel Platini, puisque j'ai écrit deux livres sur lui, et puis j'avais déjà fait du documentaire, notamment une série documentaire de 6 fois 52 minutes sur la tragédie du Ezel. Donc j'avais envie de refaire du documentaire. J'ai eu cette proposition de la part de Laurent Delahousse et de son rédacteur en chef Romain Verlet, que j'ai trouvé très enthousiasmant, parce que justement c'était pas un doc, je dirais, ballon ou une sorte de biopic de la naissance de Kylian Mbappé jusqu'à nos jours. Il y avait vraiment cet angle, parce que c'est dans une collection consacrée au soft power, donc il y avait cet angle soft power qui m'a beaucoup plu, et raconter comme ça un footballeur à travers non pas la qualité de ses centres ou de ses tirs ou de ses replis défensifs, mais en termes d'influence, de pouvoir, de relations diplomatiques ou de business aussi, parce qu'il y a un aspect business très important. Et là aussi, Mbappé, il est hors du commun par rapport à ce qu'on a connu après, parce qu'il a une force de frappe dans le domaine du luxe en particulier, qui est inédite pour un footballeur français. Donc c'est tous ces aspects-là qui m'ont plu et que j'ai trouvé absolument passionnant à raconter.
C'est vrai que ce qui est bluffant, c'est à son âge, c'est cette maturité, et très vite de s'être entouré et d'avoir cette puissance de feu. Est-ce que quand on réalise justement un documentaire comme ça, on se documente évidemment, on découvre des choses, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il n'était pas trop jeune finalement, ou il était finalement assez aguerri pour son âge?
Alors moi je dirais que les ennuis arrivent plutôt aujourd'hui en fait, paradoxalement.
Ouais, c'est ça.
Quand il avait 19 ans, il a reçu, ça on le raconte avec beaucoup de détails, sur sa première visite à l'Élysée, c'est avant même qu'il soit champion du monde avec la France, en février 2018, il a 19 ans, et il est vraiment bluffant de naturel. Et je dirais que sa communication quand il avait 19 ans, et en gros jusqu'à la dernière Coupe du Monde, elle était quasi parfaite, et c'est depuis que ça s'est enrayé, on voit bien que ces derniers mois, même ces dernières semaines, en termes de com, c'est pas toujours ça. il a l'air d'avoir plus de problèmes de com à 27 ans qu'à 19 ans. Bon, c'est sûr qu'à 19 ans, il y a toujours un aspect fraîcheur, nouveauté, tout le monde est bluffé. Quand on a 27 ans, peut-être que oui, on dure, on clive aussi beaucoup plus. Il a eu des prises de position politiques, donc quand vous parlez politique, c'est rare de faire l'unanimité. Il est parti dans de mauvaises conditions du PSG, qui est quand même de loin le club le plus populaire en France aujourd'hui. Donc tout ça fait que au Real Madrid, c'était son rêve d'enfant, et puis depuis 2 ans, ça se réalise pas vraiment comme il l'espérait. Donc il est plus dans la tourmente et dans la tempête que quand il avait 19 ans et où il apparaissait comme une sorte de phénomène à la fois sur le terrain et en dehors.
On va découvrir effectivement ce film, c'est demain soir, Mbappé, la diplomatie du ballon rond, une soirée proposée, présentée par Laurent Delahousse, et ce film que vous avez réalisé. Jean-Philippe Leclerc, merci infiniment d'avoir été avec nous, on va se quitter avec un petit extrait, je vous dis à bientôt, merci beaucoup.
Au revoir.
Il était une fois en Amérique, l'histoire du français le plus célèbre de la planète, parti à la conquête d'une 3e Coupe du Monde pour les Bleus. Même à New York, où le baseball et le basket sont rois, Kylian Mbappé est loin d'être un inconnu.
Kylian Mbappé, vous connaissez ?
Qui ?
Bien sûr, le joueur du Real Madrid.
Football, un joueur de football. Il joue pour le Real de Madrid.
Quand on commence à s'intéresser au foot, c'est l'un des premiers noms qu'on retient.
Il est très rapide, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde.
Au printemps dernier, la campagne américaine du capitaine des Bleus commence avec une série de matchs amicaux. Bain de foule dans les rues et carton plein sur le terrain.
Notre coup de cœur télé est consacré à l'Or Bleu qui va continuer mercredi soir sur France 2. Votre saga d'été avant l'été, eh bien continue avec Barbara Prost. Vous le savez, vous êtes peut-être déjà complètement addict à cette série. Ça tombe bien pour les plus malins, vous avez déjà la suite sur France.tv. Et vous avez peut-être remarqué une jeune fille, celle qui joue le rôle de Camille. Camille Domas, qui est notre invitée. C'est Elfie Kluck, l'actrice qui est avec nous. Bonjour Elfie.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous Elfie. Alors moi je suis très contente de t'avoir parce que effectivement que voilà, les petits malins et les fans de séries quotidiennes t'auront peut-être reconnu. Tu as été celle qui a été instigatrice du départ de Timothée dans Demain nous appartient, et puis on t'a vu aux côtés de Zoé dernièrement dans Plus belle la vie, encore plus belle. Et puis là ben c'est dans la saga d'avant l'été de France 2 que tu fais tes armes avec le rôle de Camille Domas. On va revenir un petit peu en arrière Elfie, parce que je crois que tu fais des théâtres depuis l'âge de 6 ans. Est-ce que ça a été une évidence pour toi, tout de suite, de jouer, d'aimer ça, de jouer ?
Effectivement, je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. J'ai toujours aimé ça, mais c'est seulement à l'âge de 14 ans que je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça comme métier, pleinement. Et en fait, j'étais dans une école alternative, et dans cette école, on faisait des périodes de théâtre. Il y a eu une période de théâtre en particulier, donc on arrêtait les cours pendant 3 semaines pour monter une pièce. Et celle-ci, en fait, était très spéciale parce que on avait écrit une partie du spectacle. Il y avait eu une metteuse en scène et un metteur en scène qui étaient venus nous aider, une scénographe, une costumière. Et en fait, je me suis dit que voilà, c'était merveilleux de créer tout ensemble en troupe et que je voulais continuer à m'amuser comme ça et à créer après le lycée. Et donc, c'est vraiment à l'âge de 14 ans que j'ai pris cette décision.
Et puis après, t'as suivi le cours Florent, du coup.
C'est ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, en première et en terminale. C'est une très belle expérience, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis encore en contact. J'ai eu 2 super professeurs, la première année, Virginie Leclerc, et la deuxième, Paul Meigneux, et on est toujours en contact, on se suit mutuellement dans nos carrières, donc c'est un beau début.
En tout cas, t'as pris des cours de théâtre que t'as suivi à l'école Claude Mathieu pendant près de 3 ans. Et puis, est arrivé l'arche au personnage de Timothée qui faisait son au revoir à la série, puisqu'on espère que Grégoire Champion reviendra un jour. En tout cas, Sidonie, elle était flippante, hein, honnêtement.
Oui, une petite part un peu spéciale, mais en fait, c'était vraiment un personnage intéressant à travailler, parce que double facette.
Ah ouais, complètement. C'était personnage double, qu'on pouvait avoir une double lecture dessus, hein, complètement.
Exactement. En fait, au final, c'était juste une jeune fille qui voulait savoir la vérité sur la mort de sa mère. Et donc, elle essayait de trouver une façon d'accéder à cette vérité. Et parfois, pour elle, ce qui paraissait plus simple à ce moment-là, c'était effectivement de créer une autre personnalité pour se rapprocher du coup du personnage de Timothée. Au final, peut-être qu'elle savait pas trop comment s'y prendre, en fait. Et donc, c'était peut-être la façon la plus simple, entre guillemets, de se rapprocher de lui. Mais je pense pas que cette intention était malveillante, en tout cas. C'était juste qu'elle voulait savoir...
De toute façon, quand on s'attaque aux brunets, ils sont jamais tout blancs, hein, ceux-là. Hein. Surtout Victor, dans la série. Bon, après Plus belle la vie, encore plus belle, tout s'enchaîne. tout va très vite, Elfie, pour toi, puisqu'il y a L'Or Bleu, tu joues le rôle de Simone, la fille d'Alice Guy, on va en parler dans quelques instants aussi. Et il y a tellement de projets d'un coup qui arrivent, c'est des fois comme ça dans une carrière, il faut arriver à faire des choix. T'as dû prendre un petit peu de distance avec le tournage de Plus belle la vie, où ton personnage allait peut-être prendre un peu plus d'ampleur, mais bon, pour l'instant, ça sera peut-être plus tard, on n'en sait rien, mais pour le moment, en tout cas, tu te consacres à L'Or Bleu, et L'Or Bleu donc a débarqué depuis 2 semaines pour notre plus grand plaisir, une saga. Alors sur fond évidemment de secrets de famille, il y a tous les ingrédients dans cette saga et tu joues la meilleure amie de Flore. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez Camille, justement, quand t'as lu le scénario?
Ce qui m'a plu chez Camille, c'est son engagement écologique, parce que c'est un sujet complètement d'actualité, donc en fait ça m'a parlé moi aussi en tant que belle fille. Camille, pour le coup, est plus jeune que moi. Elle a 18 ans. Moi, j'en ai 22, mais on est quand même dans à peu près une même tranche d'âge. Donc, les mêmes questionnements. Donc, c'est principalement son engagement. Le fait qu'elle soit complètement l'inverse de sa maman, qui, elle, pour le coup, en a rien à faire, honnêtement, de l'écologie à ce moment-là. Et elles ont un rapport très conflictuel. Et donc, ça m'a parlé le fait qu'elle arrive à se positionner. Bon, après, elle a 18 ans, donc c'est quand même une jeune adulte, on va dire, mais qu'elle arrive déjà à se positionner aussi par rapport à sa mère, par rapport à ça et d'autres choses, sans spoiler, évidemment. Donc voilà, d'abord ça, et ensuite aussi la retrouvaille d'un premier amour, en fait. Tout ça, ça m'a parlé, évidemment, parce que on vit tout ça un moment dans notre vie, peu importe l'âge. Donc j'ai beaucoup aimé jouer ce personnage.
Alors, c'est vrai que la série L'Or Bleu, on a tous les ingrédients de la saga d'été. Est-ce que c'est quelque chose dans une carrière qui est toujours chouette, parce que on a aborde quelque chose, des choses un petit peu différemment peut-être aussi. On a un peu plus le temps que sur une série quotidienne, ça a dû te faire bizarre aussi parce que on sait que sur une quotidienne ça tourne très très vite. Là il y a un petit peu plus de temps, un peu moins de minutes utiles quand même tournées par jour. Mais c'est vrai qu'une saga d'été, c'est presque historique, emblématique dans la culture télévisuelle française. Et il y a très longtemps qu'on n'en avait pas une vraiment comme ça et que France 2 nous offre là.
Effectivement, et c'est une super belle opportunité pour moi. Et quand j'ai su que j'étais prise, c'est d'autant plus heureuse de rentrer dans l'histoire des sagas d'été. Et c'est vrai qu'effectivement, le rythme, on avait plus de temps. Déjà aussi, c'était le même réalisateur pour chaque épisode, parce que les quotidiennes, dans une même journée, parfois, on peut tourner avec 2 réalisateurs ou réalisatrices différents. Donc, ça permet aussi de créer un peu plus de confiance pour construire son personnage. C'est très agréable parce que du coup on a toujours le même regard sur ce personnage-là, donc Hippolyte Dard, du coup le réalisateur de L'Or Bleu, qui est adorable, et c'était vraiment un bonheur de travailler avec lui. En plus, on tournait dans un cadre magnifique.
Il y a une scène particulière pour toi?
Alors, une scène que je redoutais un petit peu, c'est la scène où il y a le comédien qui intercepte le camion citerne, et ensuite en fait on se retrouve dans notre association avec ce comédien en question et on a une altercation. Parce que moi, je suis plus d'accord. Tout devient très violent en fait dans nos actions. En fait, on fait des actions pour l'écologie. Donc à la base, ça partait d'une bonne intention, mais ça commence à devenir très violent. Et donc moi, j'ai envie de quitter ces actions-là. Et donc en fait, j'appréhendais parce qu'il y a un moment, où il me menace avec un couteau. Donc voilà, tout ça. En fait, j'avais jamais tourné de scène de ce type-là, donc je me demandais comment ça allait être encadré, chorégraphié, etc. Je trouve qu'en fait, cette scène, en plus, on l'a tournée très tard dans la journée. On l'a tournée, il me semble qu'on a commencé à 23h, mais ça a dû finir à 2h à peu près. Et donc, c'est très spécial de tourner à ce moment-là. En fait, j'avais jamais tourné de nuit comme ça. Il y a une autre énergie, une certaine fatigue qui peut s'amener parce que notre corps n'est pas spécialement habitué à être éveillé à ce moment-là et à avoir autant d'actions, de sollicitations. Mais on a été super bien encadrés et je suis plutôt contente du résultat de cette scène. Donc voilà. Petit souvenir.
Et voilà, à voir si vous l'avez pas vu. L'Or Bleu, c'est déjà en ligne sur France.tv. Évidemment, vous avez l'intégralité de la série qui est déjà en ligne et vous découvrirez le 5e et le 6e épisode. Ça sera donc mercredi soir 21h10 sur France 2. Tu seras à l'affiche Elfie du texte La Richesse, écrit par ta maman, Vanessa F. Sekaldi, que tu retrouves à cette occasion avec Andrea Ferréol pour une lecture publique. Oui. Ça sera le 19 juillet à 19h30 dans les jardins du Palais des Papes. Quel lieu incroyable pour retrouver ta maman et Andrea Ferréol pour ces scènes d'Avignon, pour le souffle d'Avignon. Dans le cadre du souffle d'Avignon, ça sera donc La Richesse, le texte, donc, et ça sera cet été le 19 juillet. Mais c'est pas tout. Tu joues Simone, la fille d'Alice Guy, dans la série à venir Alice, et ta maman est interprétée par Bérénice Bejo. Là, c'est dingue, quand même.
Ah oui, alors là, quand j'ai appris ça, honnêtement, j'en revenais pas. Déjà, quand j'ai reçu le casting, j'ai trouvé ça dingue. C'était la première fois, on va dire, que j'avais accès à quelque chose comme ça. et que en plus bah après le premier casting j'ai été prise en callback, là je me suis dit ok, ça peut se concrétiser pour être Biomax et France TV en plus, donc des plateformes que j'aime beaucoup voir des séries sur ces plateformes en particulier. Et en plus Alice Guy, la première femme réalisatrice en fait, qui à la base était l'assistante de Gaumont. Mais au moment où les frères Lumière ont créé la première caméra, donc elle a vu cette première image de sortie d'usine que tout le monde connaît possiblement, et elle s'est dit « Ok, c'est merveilleux, on a ces caméras, mais maintenant, il faudrait qu'on raconte des histoires. » Et elle lisait énormément Alice Guy, et en fait, c'est elle qui a amené le fait de raconter des histoires au cinéma. Et donc, c'est la première femme réalisatrice
et
qui, malheureusement, a été mise dans l'ombre des hommes de cette époque. Son travail a été attribué à d'autres personnes. En tout cas, je sais que c'est une femme, moi, qui m'a beaucoup inspirée. Et donc, le fait de pouvoir jouer sa fille, c'était merveilleux, en plus, de jouer aux côtés de Bérénice Bejo, qui est une superbe actrice, qui était adorable. Honnêtement, c'était un bonheur de jouer avec elle. C'était assez impressionnant. Et donc, cette série, en tout, c'est 6 épisodes. Et les 3 premiers sont réalisés par Virginie Verrier,
ouais,
qui avait réalisé le classique Marinette.
Ouais, tout à fait.
Et les 3 derniers épisodes sont réalisés par Guillaume Lonergan, qui a réalisé la série Empathie.
Ouais.
Qui a pas mal de bons retours. Oui, exactement. C'était un bonheur de tourner avec lui, honnêtement. Enfin, c'est un réalisateur très agréable. En fait, il amène une ambiance très détendue, mais en même temps, il sait ce qu'il veut. Et donc, bah, c'est tout ce qu'on aime, en fait, en tant que comédien, je pense, de pas se sentir spécialement trop stressé par les personnes avec qui on travaille. Et en même temps, de savoir où on va. Et en plus, c'est un projet d'époque. Moi, j'adore. J'arrive à la fin de la série, donc je suis en 1930. Mais la série commence en 1875 et du coup finit en 1930. Et c'était un bonheur, le travail autour des costumes, de la coiffure, tout ça. Enfin, pour la coiffure, par exemple, j'avais, je crois, 1h30 de préparation. Enfin, c'était merveilleux. Moi, de toute façon, c'est magique, en fait. Je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir vivre ça. C'était incroyable. Et petite parenthèse, je joue Simone, en effet, à 22 ans. Il y aura aussi d'autres comédiennes qui joueront Simone, donc un peu plus jeune, à 5 ans, 7 ans, voilà. Donc, mais j'ai pas pu les rencontrer, donc j'ai hâte de les voir à l'écran.
Eh ben, il y aura des petites Simone aussi, du coup.
Simone.
Voilà, Alice, ça sera un des événements, évidemment, de la rentrée, qu'on espère voir peut-être au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. En tout cas, oui, on l'espère de tout cœur. Et tu viens de terminer également le tournage du long-métrage cinéma Bernadette and the Lady of the Lourdes, réalisé par Dan Johnson. Madame va à l'international, oui, ça y est.
Ça y est.
Mais ouais.
Oui, c'était un de mes rêves de jouer en anglais un jour, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et donc, bah, cette opportunité s'est présentée. Quand j'ai su que j'étais prise, c'était très vertigineux. Parce que donc, je joue le rôle de Bernadette Soubirous en anglais.
Ouais.
De ses 14 à ses 35 ans, donc jusqu'à sa mort. Elle est morte de la tuberculose. Donc en fait, tellement riche en jeu. Je me suis énormément préparée. Je me suis préparée pendant un mois et demi avant le tournage de mon côté, à apprendre évidemment tout le texte, la base. Mais ensuite, faire des recherches aussi autour de la maladie, essayer de... Bah, des recherches autour de Bernadette, bien évidemment, dont je connaissais pas encore l'histoire, en fait, avant ce projet. Je connaissais évidemment Lourdes et
bien sûr,
et ce qu'il y a autour, mais c'était un peu plus vague. Et c'était un bonheur. Moi, je rêvais aussi d'un jour avoir un rôle pour lequel je puisse me documenter. Quelqu'un qui a vraiment existé, porter la parole de quelqu'un qui a existé, c'est quand même assez assez dingue, surtout à une époque qui est très lointaine. Que Bernadette Soubirous est née en 1844. La première apparition est arrivée en 1858. Donc nous, le film va commencer il commence pas exactement à ce moment-là, mais en tout cas, on retrace les événements de 1858 à sa mort, du coup, 1879. Et donc, c'était une expérience incroyable, enfin, humainement et en tant que comédienne. J'ai appris plein de choses. C'était comme un stage intensif. On a tourné 5 semaines. On a tourné... dans la région des Pyrénées-Atlantiques et on a fait le tout dernier jour de tournage à Nevers dans le vrai couvent, le couvent Saint-Guidard, où le corps de Bernadette repose. Enfin, la boucle était bouclée, c'était assez magique de finir là. Et puis le réalisateur Dan Johnson, en fait, avait déjà réalisé des documentaires et des courts-métrages, mais c'était aussi son premier long-métrage. Donc c'était assez merveilleux d'être présente à ce moment-là de sa vie aussi, de pouvoir faire partie de ce projet pour lequel il a travaillé depuis plusieurs années, un projet qui lui tient vraiment à cœur aussi. Et ça se sentait parce qu'il était extrêmement généreux, précis, très sensible dans ses directions. C'était un bonheur de travailler avec lui. La CERFOP aussi, Inès Tabarin, c'est celle qui a le projet le plus récent qui a eu beaucoup de beaux retours, c'est L'épreuve du feu.
Ah bah oui.
C'était la CERFOP de L'épreuve du feu, un film que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais adoré l'image de ce film-là. Et donc, quand j'ai su que c'était elle J'étais tellement heureuse d'avoir l'opportunité de travailler avec elle. Et en effet, c'était génial. C'est une personne merveilleuse et extrêmement talentueuse. Enfin, ils font un travail magnifique. On dirait des tableaux parfois. Les plans qu'ils font, c'est sublime. Et tous mes partenaires, Anne-Hélène Orvelin, qui joue Mauveur Vosou, Florence Banks, qui joue, on va dire, ma meilleure amie du couvent, Sœur Rose, Pierre Azéma, François Legrand, Brigitte Faure, Lynn Ancel, enfin voilà, Célia Bodina, Nicolas Bernaud, je donne les noms parce que c'est des personnes merveilleuses.
Ouais, ça sera l'occasion de revenir en parler, hein, Elfie.
Voilà.
Bon, en attendant, on te retrouve dans l'heure bleue, ça sera mercredi à 21h10 sur France 2, déjà en ligne sur France.tv. On te remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette série et en même temps un petit peu de ta carrière, d'avoir fait un petit peu le point sur tout ça et sur tes projets. On espère te retrouver très bientôt en tout cas.
Mais merci beaucoup, merci pour l'accueil, c'était un plaisir et avec plaisir pour une autre interview.
À très vite, merci Elfie. Tout de suite la bande-annonce de l'Or Bleu.
Le tueur est imaginatif, il a rendu la voiture complètement étanche, zéro fuite.
Et on a retrouvé un pétale de cyclamène de Naples, il flottait dans l'habitacle.
Le chantier de l'Aiglette, quelqu'un y était opposé?
Le seul qui était vraiment prêt à tout pour le fusiller, c'était Julien Domas.
Je vous demandais de nous suivre, on aurait quelques questions à vous poser.
Attendez, moi j'ai rien à voir avec ça.
Rien de tout ça ne serait arrivé si Franck avait tenu sa femme.
Après j'ai trouvé une petite plaque en bois, il y avait le prénom Flora inscrit dessus.
Ça m'a fait le même effet que quand j'ai découvert le squelette de maman. J'ai l'impression que tout est lié. Tout me ramène tout le temps au Costa.
Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
C'est Flore.
Elle sait pour Rachel?
Bah non, justement. Ça commence à être compliqué de lui mentir, là, tu vois.
Flore, elle a le droit de savoir que Tristan la trompe avec toi, c'est dégueulasse.
Fanny?
Il pense que le juge a soit été soudoyé, soit on essaye de le faire chanter. Le
Tristan serait capable de faire un truc pareil?
Allez, ne bougez pas dans un instant. Sophia Morgavi, la prof de la Starac, nous rejoint pour nous parler de son livre et évidemment de son expérience dans l'émission. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com. Sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Tu fais semblant de ne pas me voir, mais tes yeux me regardent toujours. Tu ne veux pas me laisser y croire, tu tournes toujours tout à l'humour. Tu me dis je veux rien de sérieux, mais tu recheck toutes mes stories. Tu fais la dure, tu joues le jeu, mais on sait très bien comment ça finit. Et tu dis stop, tu veux qu'on ralentisse, mais ton corps lui raconte l'inverse. Tu as peur que l'on soit trop près, tu ne veux pas être blessé. Mais t'inquiète, je ne suis pas pressé. T'as mis le soleil dans ma tête. Même en hiver, si t'en étais. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés. T'as mis le soleil dans ma tête. Même en hiver, si t'en étais. J'aimerais tant que le temps s'arrête et que je me trouve à tes côtés. Que tu tranquille, on verra bien. Voyons voir où ça nous mènera. Mais quand ta main touche ma main, je sais qu'un jour tu l'emmèneras. Qu'on ralentisse, mais ton corps lui raconte l'inverse. Tu as peur que l'on soit trop près, tu ne veux pas être blessé. Mais t'inquiète, je ne suis pas pressé. T'as mis le soleil dans ma tête.
Trouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. l'invité d'honneur de la semaine.
Voilà, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, on est très heureux. On va parler bouquins, mais pas que. On va parler de la Star Academy, bien évidemment. On va parler aussi de scène, parce que vous la retrouvez sur scène aussi. Elle est comédienne, elle a toutes les cordes à son arc. Sophia Morgavi, la prof de chant de la Star Academy, est avec nous pour nous présenter son livre « Et bien chanter maintenant » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour ma chère Sophia.
Bonjour et merci de me recevoir.
Eh bien écoute, c'est la deuxième fois cette saison, jamais 203. En tout cas, on est très heureux de t'avoir parce qu'on en a parlé effectivement de ce livre « Et bien chanter maintenant ». Tu donnes plein évidemment d'astuces, que tu donnes un peu tous tes petits tips pour faire de nos voix peut-être quelque chose d'assez unique. Tu me l'avais dit en octobre quand on s'était vu d'ailleurs et qu'il y avait plein de choses à faire avec sa voix et qu'on le soupçonnait pas. Mais d'abord, ce livre, c'est aussi toi où tu te livres dans ce livre.
Alors en effet, oui, c'est important pour moi de me raconter puisque je propose une méthode de chant qui est dite ludique et en même temps rigoureuse et ça me représente. Donc le fait de me raconter, ça donne des informations aussi à mon lecteur sur qui je suis, quelle personne je suis, comment je me suis construite, comment je suis arrivée là où je suis et qu'est-ce qui m'a amené à écrire cette méthode. Ça sort pas du chapeau comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin de voix. J'aime utiliser cette image de chemin de voix, le sous-texte du chemin de croix, puisque tout n'est pas si simple que ça. Hein. Il y a bien sûr, je voulais aussi indiquer au lecteur que je ne suis pas là par magie. Il y a tout le travail, tout ce que j'ai mis en place en amont pour être là où je suis aujourd'hui. Donc à la force du poignet, ma réflexion, mon expérience, qui je suis, mes qualités, mes défauts, mes rencontres, mes professeurs, mes convictions, mes croyances, tout ça, ça fait partie aussi de ma méthode, puisque je la diffuse avec la certitude que ce que je veux transmettre, c'est de la joie, du plaisir et un partage. Partage d'une expertise qui m'a été transmise par mes maîtres et ma maestra. Je la cite systématiquement, c'est ma maman du chant, paix à son âme, qui n'est plus là, Andréa Guillot. Voilà, donc me raconter, c'était très important pour moi.
Et on part de la Sophia enfant quand même, hein, dans le livre.
Ouais, c'est marrant, t'as fait un lapsus, ouais. Film.
Oui, parce que ça pourrait être un film. Hein.
Pourquoi pas? Tiens, on envoie ça à l'univers. Oui, mais parce que très vite, j'ai chanté. Et dans le ventre de ma mère, enfin ma mère voulait être chanteuse lyrique. Je le raconte dans mon livre, cette histoire où elle se caressait le ventre en disant « Seigneur, faites que ce soit une chanteuse lyrique ». Et je suis venue au monde avec cette voix. Et oui, très tôt, j'ai chanté. Très tôt, j'ai chanté à la cantine, sur les tables du réfectoire, dans le salon de coiffure de ma maman, quand il y avait des fêtes comme Noël ou Pâques. J'ai fait des concours, des gazettes. Enfin, bon, chaque fois qu'il fallait chanter ou jouer, ou danser même, j'y allais de bon cœur.
C'est un don, quelque part.
Alors, on m'a dit que c'était un don. Alors, je vais lui rendre hommage aussi, Claude Mélanie, un de mes professeurs du Conservatoire de Marseille. Quand il m'a auditionné, la première fois, il m'a dit « Tu as un don, mais ça ne suffit pas. Il va falloir travailler. » Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je transmets cette consigne aussi à mes apprenants, à mes élèves.
Exactement, tes élèves, bah oui, notamment ceux de la Star Academy. Mais ce que je trouve assez extraordinaire avec toi, Sophia, c'est que quand on s'est rencontrés la première fois, rien qu'à la voix de ton interlocuteur, tu décèles le potentiel possible.
Oui.
Ça, je trouve ça mais assez extraordinaire. Tu m'as vu, on a discuté 30 secondes une fois à Paris, et tu m'as dit, toi, avec ta voix, t'es capable de faire ça, ça. C'est assez dingue, je trouve, ce don que tu as de tout de suite pouvoir, comme ça, analyser une voix et savoir ce que tu peux en faire.
Oui, alors oui, parce que quand j'entends une voix, j'ai des images. Dire que j'ai des images, des couleurs, des formes. Il y avait des compositeurs comme ça, qui voyaient des couleurs en composant dans telle ou telle tonalité, ou des chanteurs. Ben moi, quand j'entends une voix, je vois des couleurs, je vois des formes, et je sais exactement à quel endroit est placée la voix. Ce qui me permet à l'instant T de pouvoir donner l'image que je reçois, que je vois sur mon écran mental, c'est-à-dire que c'est comme ça. C'est, je sais pas si ça te le fait, toi par exemple, il y a des prénoms, moi je vois une couleur sur un prénom. Mmh. Ça te le fait ou pas?
Ouais, des fois un caractère ou quelque chose, ouais. On dit tiens, il s'appelle comme ça. Tiens, oui, des fois sur les enfants, les enfants ont un prénom, on se dit ceux-là ils doivent en baver avec par exemple.
En fonction du nombre de voyelles et de consonnes.
Je sais pas, mais c'est vrai, oui, t'as raison.
Voilà. Donc en fait, j'ai cette faculté et c'est aussi moi, c'est 35 ans d'expérience. Hein. Bon, bah, voilà, je veux dire des profils, j'en ai vu des tas et des tas, mais chaque fois avec une singularité, un potentiel naturel et vraiment j'en fais ma carte d'identité de pédagogue, c'est-à-dire que je ne fabrique pas des voix grâce à la technique de la voix sur le souffle, libérer la voix sur le souffle, c'est-à-dire soutenue par le corps aussi, les muscles qui soutiennent la voix, on libère la voix naturelle sans la fabriquer. Par exemple, si je me mets à te parler comme ça, tu vois, je fabrique une voix. Bon, voilà, là, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramené mes commissures. Ou si je me mets à parler comme ça, je fabrique une voix aussi. Donc en fait, là, je parle naturellement et j'utilise un registre. Bon.
Tessiture différente.
Voilà, mais je suis certainement pas la seule professeure à avoir ce don, si je puis dire.
Ça s'appelle « Eh bien, chanter maintenant », souvenir et méthode de la professeure de chant de la Star Academy, Sophia Morgavi, qui est avec nous, qui est notre invitée aujourd'hui. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous pouvez vous procurer ce très bon livre dans tous les bons espaces culturels. On fait une petite pause en musique. On va écouter, tiens d'ailleurs, un petit peu l'hymne de la Starac de cette année. Et on revient juste après pour parler de cette aventure dont tu parles aussi, évidemment, dans les livres. À tout de suite.
En partant du même regard qui nous appelle. C'est parti pour un tour du crépuscule au point du jour. Les maîtres du jeu. Nous on est là encore. On en veut plus, toujours plus fort. Pour mettre le feu. Voulez-vous? On se fout de l'après. Tu prends ou tu laisses.
La Starac, ah, ça a tout changé, hein. Ça a amené la notoriété, ça a amené aussi la lumière sur tes techniques, sur tes méthodes, qu'on fait leur preuve, notamment sur Charles, dont tu as fait des miracles sur lui, parce qu'aujourd'hui, à tel point qu'on on l'associe à sa professeure de chant, Charles, parce que tellement aujourd'hui, il a un talent de dingue que tu as réussi, toi, à faire virevolter en un cours, en lui expliquant vraiment les choses et ce qu'il pouvait faire, parce qu'il était complètement découragé à ce moment-là. Et puis, la nouvelle salle, cette année, de nouveaux élèves. Alors, tu as eu tes coups de cœur. Est-ce que tu pouvais rien dire au mois d'octobre?
Des coups de cœur, disons que j'ai été subjuguée par la passion de ces artistes. En fait, c'est marrant, mais les saisons ne se ressemblent pas. Chaque saison avait son potentiel, ses qualités, son identité. Cette saison, ce qui m'a vraiment épatée, c'est qu'ils avaient tous une niaque, mais vraiment, c'était des bosseurs, les autres aussi, mais la foi. Et en fait, à chaque prime, j'avais un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour Sarah. J'ai eu un coup de cœur pour Ambre, j'ai eu un coup de cœur pour Léa, j'ai eu un coup de cœur pour Anouk, j'ai eu un coup de cœur pour Jeanne, un coup de cœur pour Léo. Je pourrais tous les citer, pour Victor. En fait, on a le temps de les voir s'épanouir, de les voir se sublimer, se transcender sur le plateau. Et lorsque, à ce moment-là, moi je dis mon coup de cœur ce soir, Sébastien, c'est que vraiment j'ai eu ce coup de cœur à ce moment-là.
Donc, avec nous en plus il y a quelques jours, hein, dans Chute on écoute la télé, parce qu'il est aussi comédien, Bastien, et je sais qu'il t'adore, hein, il me l'a dit.
Eh ben c'est réciproque, voilà, c'est réciproque. Donc tu vois, le coup de cœur, je l'ai surtout pendant les primes, parce que à ce moment-là, ils arrivent à se mobiliser pour sur le plateau tout donner.
Et mettre en application quelque part ce que tu leur as appris tout au long de la semaine aussi.
Tout à fait. Est-ce que tout le corps professoral, je ne suis pas la seule, hein, mes collègues aussi œuvrent pour les sublimer, ces gamins. Eh bien, à ce moment-là, je suis touchée par par un élève. Enfin, moi, ce qui va me toucher, c'est déjà un élève qui va chanter avec le cœur, avec sa voix naturelle et qui va être sincère, qui va pas faire pour briller, mais qui va ressentir pour partager. Ça me touche. Et là, j'ai un coup de cœur. Si je n'ai pas ça, je veux dire, oh, c'est sympa, oui, 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 c'est bien, ça coche les cases. Mais je suis pas transportée, tu vois.
Comment t'expliques, Sophia, toi qui es un peu une experte justement de la voix, moi j'ai ressenti une expérience cette année en regardant la Star Academy comme jamais j'avais ressenti, je vais être honnête avec toi, c'est la première fois que je ressentais quelque chose au plus profond du cœur là-dessus, c'est Jeanne. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a eu beaucoup de gens comme moi, quand Jeanne chante, sa voix me transperce, mais je ne sais même pas l'expliquer, le pourquoi du comment et pourquoi elle me transmet cette émotion-là. Mais Jeanne a quelque chose, j'ai trouvé cette année, qui m'a moi touché comme jamais. Est-ce que ça, tu sais expliquer comment la voix peut arriver à transmettre ça? Et j'ai vu que j'étais pas le seul, beaucoup de monde sur les réseaux sociaux ont écrit ça la concernant.
Tu sais, quand on fait une rencontre amoureuse, on tombe amoureux. Bon, mais je pense que on ne saura jamais vraiment pourquoi on est tombé amoureux. On sait que la personne qu'on aime, elle a les qualités peut-être que l'on recherche pour partager un bout de chemin. Eh bien, lorsqu'on écoute une voix et qu'elle nous plaît, il y a sans doute des qualités qui nous touchent plus que d'autres. Une qualité de timbre, une qualité interprétative, une qualité théâtrale, une qualité de cœur. Je n'en sais rien, ça ne s'explique pas.
Donc je ne dois pas être inquiet.
Non, ça ne s'explique pas. Jeanne, elle a une espèce de douceur, de romantisme exacerbé dans sa voix, un timbre velouté, délicat. Et elle est comme elle est dans la vie, tu la vois sur le plateau. C'est-à-dire que c'est un ange. C'est quelqu'un de foncièrement bon, elle est généreuse. Donc quand elle chante, c'est ce que toi tu reçois. Mais il y en a d'autres qui vont pas l'accueillir, ça. Tu vois, c'est comme, je dis, comme une histoire d'amour. On tombe amoureux, mais il vaut mieux pas savoir pourquoi finalement on est amoureux. Parce que sinon après, ça n'a plus aucun intérêt.
Bon, en tout cas, ils sont partis tous en tournée et ils sont bien occupés hein, jusqu'à la fin juillet, évidemment, ces élèves. Et j'imagine que tu attends, en tout cas, j'espère que tu en seras pour cette prochaine saison qui démarra en octobre. J'espère que tu seras de cette nouvelle saison parce que franchement, t'es devenue une professeure iconique de la Star Academy grâce à ta personnalité, grâce à ta méthode, grâce aussi à ta bienveillance entre eux. Je suis sûr que ça aussi, ça a fait la différence parce qu'on voit vraiment les élèves attachés aujourd'hui à toi.
Ah ben ça me touche beaucoup, oui, c'est vrai, on est très proches, mais tu sais, c'est une aventure humaine, ce qu'on vit ensemble de manière intense, ces énergies, cette transmission, c'est un cordon ombilical invisible qui nous relie dans cette passion, cet amour de l'art. Mais ça, ça laisse une empreinte à vie. Alors voilà, il y en a certains, bon, ça leur passe par-dessus la tête, tant mieux. Et puis, t'en as d'autres qui sont attachés, je vais les voir en concert, je vais les voir, les petits. Je suis allée au concert de Maya qui était sublime, concert de Charles, concert de Marine, Marguerite et Bonnie. Donc, je vais tous les voir. Je vais tous les voir parce que c'est important pour moi de voir aussi comment ils ont évolué sur scène. Et quand on se retrouve, je t'assure, enfin, si t'étais là pour nous filmer, enfin, on se saute dans les bras comme des enfants de 5 ans, quoi, qui se retrouvent à la garderie. Hein,
c'est on se ressent une fierté aussi, en tant que prof de chant, quand même, de les avoir accompagnés, de les avoir vus naître.
Alors, c'est plutôt un honneur. Je me sens pas fière d'avoir accompagné, mais honorée. Je me sens honorée d'avoir laissé une empreinte et de me dire oh, quelle chance j'ai maintenant, aujourd'hui, de pouvoir les voir performer. Et j'ai mis ma petite pierre à l'édifice et j'entends. Je me dis, bon, je mets mon cerveau de côté, je viens prendre du plaisir. Mais en fait, là, je te mens pas, hein, tous, ils savent respirer. Donc, ils savent chanter. Point barre.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils sont quasiment tous en tournée. Hein. Marine repart en tournée et tout. Donc, dans le tourbus, ce qui est bien, ouais, c'est qu'ils vont pouvoir bouquiner. Et ils vont pouvoir lire le livre de Sophia Morgavi et bien chanter maintenant Souvenirs et méthodes de la professeure de chant de la Star Academy aux éditions de l'Observatoire. N'hésitez pas à vous procurer ce livre, ça vous donnera tout plein de petites astuces, ça éveillera peut-être chez vous en tout cas des envies de chanter ou d'explorer tout simplement votre voix dont vous soupçonnez peut-être pas justement les méandres ou toutes leurs possibilités. Et grâce à Sophia, vous allez peut-être découvrir des choses. Merci ma chère Sophia.
Mais merci à toi. Je voudrais rajouter quelque chose que au-delà d'une méthode de chant qui permet d'améliorer son placement vocal, il y a aussi le chant qui a des vertus thérapeutiques où on se fait du bien en respirant, on se fait du bien, c'est un moment qu'on s'octroie pour soi, un sas de décompression, on fait une leçon, on est là, en méditation avec nous-mêmes, c'est un voyage intérieur. Donc, cette méthode aussi, c'est ça. C'est également un outil de bien-être, se sentir bien, passer du temps à apprendre à connaître son corps, à exprimer ses émotions grâce à sa voix.
Merci beaucoup, Sophia.
Merci à toi.
Et à bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous recevrons Jérémy Régnier et Laurie Lag pour la sortie du documentaire D'un monde à l'autre. Spécial, c'est qui le chef? Bruno Solo, Alice Dobelcourt et Michel Simès seront avec nous. Et puis ça sera également une spéciale mariée au premier regard.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.